Bonsoir et bienvenue pour cette soirée des écrivains à l'écran. Nous sommes très heureux d'accueillir Éric Hazan, qui, à l'invitation de Marianne Alphand, a accepté de se plier à cette petite règle du jeu qui consiste à choisir un écrivain. Et nous projetons, après son intervention, un film sur cet écrivain. Alors pour Balzac, c'était pas tout à fait évident, mais heureusement, Pierre Dumayet et Robert Bobert avaient réalisé un film en 2000 autour de Balzac. Donc c'est ce film que vous verrez après la conférence de M. Hazan, que je ne présente pas, excusez-moi. Tous vos amis
impresentable.
Sont là. Pas présentable. Tout le monde est venu pour vous écouter, tout le monde sait qui vous êtes. Robert Bobert est dans la salle également et il m'a dit qu'il ne voulait pas prendre la parole avant le film et qu'il répondrait volontiers à des questions après la projection. Voilà, donc bonne soirée.
Merci. Alors j'ai choisi un angle qui a l'intérêt de ne pas faire double emploi avec le merveilleux film que vous allez voir après. Cet angle, c'est le Paris de Balzac, en quelque sorte. Alors, à la première page du Père Goriot, il est question de cette illustre vallée. Alors, Balzac dit « Entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue. » Alors cette boue, on la trouve à peu près à tous les coins de rue dans le Paris de la comédie humaine, ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs pour une ville qui n'a pratiquement aucun égout et très peu de trottoirs. Il y avait même un petit métier tenu par les gamins savoyards qui consistait, quand il avait beaucoup plu, à jeter des planches par-dessus les ruisseaux noirs de boue pour les traverser à pied sec. Ça s'appelait des ponts tremblants. Et les jeunes gens élégants mais pauvres de la comédie humaine, quand ils vont rendre visite à une dame en général qui habite un bel hôtel, ils sont très préoccupés par la boue. Rastignac, étudiant en droit, à la pension Vauquer, qui vit avec l'argent que lui envoient ses sœurs de province, quand il va voir Madame d'Espard dans son bel hôtel de la rue du Helder, malgré ses précautions, Balzac dit: il se crotta, l'étudiant. Il fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au Palais Royal. Finalement, il aurait mieux fait de prendre un fiacre, mais bon. Dans la comédie humaine, le quartier qu'habitent les personnages les caractérise autant, peut-être même davantage, que leurs vêtements ou leur intérieur. Pour l'aristocratie, par exemple, bon, la première idée, c'est l'aristocratie habite le faubourg Saint-Germain. C'est vrai, oui et non. Car, comme l'explique Balzac dans La Duchesse de Langeais, ce que l'on nomme en France le faubourg Saint-Germain n'est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place Royale, le faubourg Saint-Honoré, la chaussée d'Antin possèdent également des hôtels où se respire l'air du faubourg Saint-Germain. Ainsi déjà, tout le faubourg n'est pas dans le faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s'agréger à ce monde, tandis que certaines autres, qui y sont nées, peuvent en être à jamais bannies. Proust, qui connaissait la comédie humaine quasiment par cœur, fait une remarque très voisine dans le côté de Guermantes. Il écrit la présence du corps de Jésus-Christ dans l'hostie ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce premier salon du faubourg Saint-Germain situé sur la rive droite et dont je pouvais de ma chambre entendre battre les meubles le matin. Bon, évidemment, il ne faut pas exagérer. Il y a dans la comédie humaine des grandes familles aristocratiques qui habitent le vrai faubourg Saint-Germain. Madame de Beauséant, qui est courtisée par le jeune Rastignac au début du Père Goriot, habite rue de Grenelle. La duchesse de Grandlieu, la mère de Clotilde, que Lucien de Rubempré tente d'épouser dans Les Illusions perdues, elle habite un hôtel de la rue Saint-Dominique, pas loin de Saint-Thomas d'Aquin. Et Rastignac lui-même, bien des années plus tard, quand sa tendre relation avec Delphine de Nucingen l'aura rendu riche, habitera un très bel hôtel de la rue de Lille. Mais ces familles du vrai faubourg, je crois, sont un peu de l'aristocratie démodée. Ce sont des familles d'émigrés, revenus. Ce sont, en 1830, des légitimistes. Des ringards, en quelque sorte. L'aristocratie brillante, à la mode, qui n'hésite pas à se mésallier avec la finance, habite rive droite. Elle habite la chaussée d'Antin et le faubourg Saint-Honoré. Quand on descend le faubourg depuis Saint-Philippe-du-Roule, parce que au-delà, à l'époque, ça n'est pas le faubourg Saint-Honoré, ça s'appelle le faubourg du Roule. Donc le faubourg s'arrête à Saint-Philippe. Si on descend le faubourg depuis Saint-Philippe-du-Roule, église où eurent lieu les funérailles de Balzac, le premier hôtel balzacien que l'on rencontre, c'est l'immense hôtel de Cadignan, qui est habité par une des grandes héroïnes de la comédie humaine, la duchesse de Maufrigneuse, Diane, qui deviendra princesse de Cadignan. Quand elle sera ruinée, la révolution de 1830 la ruine. C'est trop compliqué à expliquer pourquoi, mais ça la ruine. Donc elle est obligée d'abandonner ce magnifique hôtel et d'aller habiter pas loin, rue de Miroménil, un petit 4 pièces dans un hôtel au rez-de-chaussée. Plus bas, près de l'Élysée, c'est l'hôtel de Madame d'Espard, dont, dit Balzac, les appartements décorés dans le goût noble qui jadis respirait à Versailles annonçaient une immense fortune. Fortune moyennement bien acquise d'ailleurs, parce que cette femme très peu sympathique avait mis la main sur la fortune de son mari en le faisant passer pour gâteux. Et le pauvre vieux habitait une mansarde dans un très pauvre quartier, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Heureusement, il y avait le bon juge Popineau, qui est intervenu dans ce livre qui s'appelle dans ce roman qui s'appelle L'Interdiction, une longue nouvelle en fait. Popineau, il est intervenu pour faire pour remettre un peu de justice dans le truc. Mais parenthèse, Popineau, lui, magistrat intègre donc pauvre, habite rue du Fouarre, qui est une rue qui existe toujours entre Maubert et la Seine, qui à l'époque avait une particularité, c'est qu'il y avait un ruisseau qui coulait au milieu, mais pas n'importe quel ruisseau, un ruisseau qui était en fait un bras de la Bièvre, qui amenait par conséquent dans cette rue la boue et les puanteurs des tanneries, des gobelins. Je reviens sur la rive droite. À la chaussée d'Antin, on trouve les deux filles du père Goriot, Madame de Restaud, on l'a vu, rue du Helder, et Delphine de Nucingen, rue Saint-Lazare, dans une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, des stucs, des palais d'escalier en mosaïque de marbre. Le jardin de Delphine est mitoyen du jardin de la marquise de Saint-Réal, marquise qui, comme vous vous en souvenez, séquestre, et finira d'ailleurs par poignarder, la fille aux yeux d'or, Paquita Valdés, par jalousie. Ce fait que l'aristocratie est de plus en plus rive droite, ça reflète ce que dit Balzac dans Les Petits Bourgeois. Il parle de ce mouvement progressif par lequel la population parisienne se porte sur les hauteurs de la rive droite de la Seine en abandonnant la rive gauche. La rive gauche, c'est essentiellement le quartier latin. Le quartier latin, ça va, c'est la pente nord de la montagne Sainte-Geneviève, ça va du Panthéon à la Seine. Et là, quartier misérable, les étudiants se mêle à la bohème littéraire et artistique dans des taudis. Place de la Sorbonne, à l'angle de la rue des Maçons-Sorbonne, qui est aujourd'hui la rue Champollion, et de la place, le restaurant Flicoteaux, ce temple de la faim et de la misère, où, au début des Illusions perdues, Lucien de Rubempré, arrivant à Paris, fait la connaissance, décisive pour lui, de Lousteau et de d'Arthez. Puis, après s'être fait larguer par Madame de Bargeton, il trouve une chambre au quatrième étage de l'hôtel de Cluny, rue de Cluny, l'une des plus pauvres et des plus sombres petites rues de Paris, serrée entre trois églises et les vieux bâtiments de la Sorbonne. Les trois églises, je n'ai pas trouvé, mais bon, tant pis. Dans la peau de chagrin, Raphaël habite lui aussi un hôtel misérable, l'hôtel Saint-Quentin, rue des Cordiers, c'est une rue qui a disparu. Cet hôtel avait été fréquenté auparavant par Rousseau. Dans ses confessions, il dit « vilaine rue, vilaine hôtel, vilaine chambre ». Alors, les amis du Cénacle, d'Arthez, l'écrivain visionnaire, le double de Balzac, l'un des doubles Balzac dans la Comédie humaine, Bianchon, à l'époque interne en médecine, interne du grand Desplein, chirurgien de l'Hôtel Dieu, Bianchon qui deviendra une des gloires de la médecine, au point que Balzac, sur son lit de mort, on dit qu'il a demandé appeler Bianchon. À ce moment-là, il est encore interne. Il vit d'ailleurs à la pension Vauquer avec Rastignac. Joseph Bridau, un des bons peintres de la Nouvelle École, et Michel Chrestien, le républicain, le seul républicain de la Comédie humaine, à ma connaissance, qui sera tué d'ailleurs. Il disparaît assez vite, il est tué à Saint-Méry au cours des journées de juin 1832. Tous ces jeunes gens, très pauvres, se réunissent chez d'Arthez, rue des Quatre Vents, rue qui existe toujours, en parallèle à la rue Saint-Sulpice. « Une des plus horribles rues de Paris », dit Balzac dans ce petit chef-d'œuvre qu'est la messe de la Thé. Le quartier latin a des prolongements en périphérie. Vers l'ouest, vers Saint-Sulpice, c'est un coin tout à fait désert. C'est là que loge, rue Cassette, Carlos Herrera, prêtre espagnol qui fait tous les matins ses dévotions très tôt à Saint-Sulpice et qui est en fait la dernière incarnation de Vautrin, le forçat évadé qui court tout au long de la Comédie humaine. Il vit là avec Lucien de Rubempré à la fin de Splendeur et misère des courtisanes. Alors du côté de la Seine, c'est le domaine du livre. Entre la rue de Seine, la rue de la Harpe, la rue Saint-André-des-Arts et le quai, un rectangle allongé est-ouest. L'imprimerie de Balzac, qui lui vaudra des dettes qui passera toute sa vie à ne pas éteindre d'ailleurs, cette imprimerie est rue des Marais Saint-Germain, qui est aujourd'hui la rue Visconti. Tout à l'heure, dans le film de Bobert et Dumayet, vous verrez qu'au fond, Balzac aurait assez aimé ce nom de Visconti, parce que l'homonymie peut avoir des hasards heureux. La plupart de ces éditeurs de Balzac sont dans ce territoire. Gosselin et Hetzel sont rue de Seine, la veuve Béchet, quai des Grands Augustins, Mam, rue Guénégo, Furne, dont l'édition de la Comédie humaine fait encore autorité aujourd'hui, rue Saint-André-des-Arts. Éditorialement parlant, Balzac n'a traversé la Seine qu'une seule fois pour aller travailler avec le Vavasseur dans l'autre endroit du livre à Paris, les galeries de bois du Palais Royal. Mais les galeries de bois étaient plutôt le territoire de la librairie des nouveautés, alors que sur la rive gauche, c'était plutôt les classiques. Si bien que quand Lucien de Rubempré veut faire éditer son recueil de sonnets « Les Marguerites », il va rendre visite au célèbre Dozia, libraire des galeries de bois, et Dozia lui dit « Depuis 2 ans, les poètes ont pullulé comme des hannetons. J'y ai perdu 20 000 francs l'année dernière. En librairie, jeune homme, il n'y a que 4 poètes, Béranger, Casimir de la Vigne, Lamartine et Victor Hugo. Car Canalis, c'est un poète fait à coups d'articles. » Sur la rive gauche, les deux faubourgs, le faubourg Saint-Jacques et le faubourg Saint-Marceau, sont encore plus misérables que le reste du territoire. Pour décrire le faubourg Saint-Jacques, que Balzac connaissait très bien parce qu'il a habité longtemps deux rues Cassini. La rue Cassini est une petite rue du faubourg Saint-Jacques entre l'hôpital Cochin et l'Observatoire. Rien ne vaut, je crois, le passage qui se trouve à la fin de Ferragus. Autour de ce lieu sans nom, c'est, disons, à peu près, on se trouve à peu près à l'emplacement du métro Port-Royal. Autour de ce lieu sans nom s'élèvent les enfants trouvés, la Bourbe, c'est la maternité Port-Royal aujourd'hui, l'hôpital Cochin, les Capucins, l'hospice La Rochefoucauld, les Sourds-Muets, l'hôpital du Val-de-Grâce. Enfin, tous les vices et tous les malheurs de Paris ont là leur asile. Et pour que rien ne manquât à cette enceinte philanthropique, la science y étudie les marées et les longitudes. Monsieur de Chateaubriand y a mis l'infirmerie Marie-Thérèse et les Carmélites y ont fondé un couvent. Les grandes situations de la vie sont représentées par les cloches qui sonnent incessamment dans ce désert, et pour la mère qui accouche, et pour l'enfant qui naît, et pour le vice qui succombe, et pour l'ouvrier qui meurt, et pour la vierge qui prie, et pour le vieillard qui a froid, et pour le génie qui se trompe. Puis, à deux pas, est le cimetière du Montparnasse qui attire d'heure en heure les chétifs convois du faubourg Saint-Marceau. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça n'a pas changé. Tout ça tend. S'il avait pu mettre la prison de la santé, l'inventaire était absolument complet. Alors, le faubourg Saint-Marceau, lui, s'étend des Gobelins à la barrière d'Italie, c'est-à-dire la place d'Italie. La pension Vauquer, qui est rue Neuve-Sainte-Geneviève, c'est-à-dire rue Tournefort aujourd'hui, elle est située, dit Balzac, à mi-distance entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. De tout Paris, ce sud du 12e arrondissement, c'était le Paris des 12 arrondissements, hein, avant l'annexion des villages de la Couronne, Paris avait 12 arrondissements. Donc le dernier, le 12e, ce sud du 12e arrondissement est la région la plus pauvre, qui est beaucoup plus misérable que l'autre grand faubourg populaire de Paris, le faubourg Saint-Antoine, dont d'ailleurs la Comédie humaine ne fait pratiquement jamais mention. Dans l'interdiction, dont j'ai déjà parlé, Balzac dit que ce 12e est celui dans lequel les deux tiers de la population manquent de bois en hiver, celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés. Le tour des enfants trouvés, c'était un système qui permettait d'abandonner les nourrissons, les nouveau-nés, sans être vu, un peu comme les choses qu'il y a à la poste pour mettre les paquets, là, ça tourne. Voilà. C'était le tour des enfants trouvés. Le plus de marmots autour des enfants trouvés, le plus de malades à l'Hôtel Dieu, le plus de mendiants dans les rues, qui envoie le plus de chiffonniers au coin des bornes, le plus de vieillards souffrant le long des murs où rayonne le soleil, le plus d'ouvriers sans travail sur les places, et le plus de prévenus à la police correctionnelle. Le colonel Chabert, qui est réputé mort à la bataille des Lots et que sa femme refuse de reconnaître, habite là, rue du Petit Banquier, qui doit être la rue du Banquier actuel, je pense. Et quand Derville, l'avoué, va lui rendre visite, le cocher du fiacre refuse de s'engager dans l'allée en raison des ornières et de la boue. Donc, dans l'ensemble, la rive gauche est assez triste. Les lieux de plaisir, les lieux à la mode sont sur la rive droite. Et à cet égard, l'époque de la Comédie humaine marque un grand bouleversement. Dans les 20 ans, si vous voulez, entre les dernières années de la Restauration et la fin de la Monarchie de Juillet. Au début de cette période, le centre de la mode et du plaisir, c'est le Palais Royal. Il n'y a pas de discussion. On y trouve deux des trois grands restaurants de la Comédie humaine, le troisième étant le Rocher de Cancale, rue Montorgueil. Il y a les Frères Provençaux, où le jeune Félix de Vandenesse, au début du Lys dans la Vallée, rêve de se faire inviter, mais comme il a fait une bêtise, son frère le punit, il ne sera pas invité, il n'ira pas voir Talma non plus. Il y a donc les Frères Provençaux et il y a Véry, formidable restaurant qui est devenu Véfour, hein, qui existe pratiquement toujours, Véry. Ou Lucien de Rubempré, toujours malheureux après que Madame de Bargeton l'ait largué. Il va se consoler avec une bouteille de vin de Bordeaux, des huîtres d'Ostende, un poisson, une perdrix, un macaroni et des fruits. Pas mal. Il fut tiré de ses rêves par le total de la carte qui lui enleva les 50 francs avec lesquels il croyait aller fort loin dans Paris. Mais au Palais Royal, la table n'est pas le seul atout. Il y a les dames et surtout le jeu, les tripots. Il y a le fameux 113 où Blücher s'est ruiné en 1815 après Waterloo, quand il est parti de Paris, toutes ses terres de Prusse étaient gagées. Il y a le 9 où Rastignac va gagner les 7000 francs qu'il faut à Delphine de Nucingen pour payer ses dettes. Elle l'attend dans le fiacre en bas. Et il y a le 9, non, le 36, où, dans la peau de chagrin, au début, Raphaël monte pour son malheur. Mais justement, en 1836, une loi interdit les jeux de hasard à Paris. Et cette loi marque la fin de la vogue au Palais Royal. Alors, les filles, les viveurs, les filous, les dandies émigrent, pas très loin, disons 300 mètres vers le nord, jusqu'au Grand Boulevard, qui vont devenir la nouvelle promenade enchantée. Promenade enchantée, c'est Balzac qui le dit. Il a d'ailleurs fait là-dessus une petite monographie qui s'appelle « Histoire et physiologie des boulevards de Paris ». Et là, il dit « C'est le cœur de Paris actuel qui palpite entre la rue de la Chaussée-d'Antin et la rue du Faubourg-Montmartre. » Parce que c'était très localisé l'endroit vraiment à la mode, entre la rue de la Chaussée-d'Antin et la rue du Faubourg-Montmartre. Tous les journalistes, les écrivains, les snobs de la comédie humaine se retrouvent à un moment ou à un autre au Café Anglais, au Café Gardinal, chez Frascati et surtout à Tortoni. Les trois marches du perron de Tortoni deviennent une sorte de un centre du monde. On sort, dit Balzac, du champ de bataille de la Bourse pour aller au restaurant, en passant d'une digestion à une autre. Tortoni n'est-il pas la préface et le dénouement de la Bourse ? Ce point de Paris a tué le Palais Royal. Sur la rive droite, il faudrait encore parler du quartier du Négoce, les Halles, la rue Saint-Honoré, où César Birotteau a mis au point la pâte des sultanes à l'enseigne de la Reine des Roses. Il faudrait parler de l'extraordinaire quartier du Carrousel entre le Louvre et les Tuileries, le seul quartier de Paris qui ait disparu sans laisser la moindre trace. C'est là qu'habite la cousine Bette, rue du Doyenné. Lorsqu'on passe en cabriolet le long de ce demi-quartier mort, demi-quartier parce qu'on commence à l'époque dont parle Balzac, la démolition de ce quartier était largement entamée. Elle avait commencé en fait sous le consulat, quand une bombe avait failli faire sauter le premier consul. À partir de ce moment-là, le quartier avait été. On avait décidé la destruction du quartier. Donc, le long de ce demi-quartier mort, lorsque le regard s'engage dans la ruelle du Doyenné, l'âme a froid. On se demande qui peut demeurer là, ce qui doit s'y passer le soir, à l'heure où cette ruelle se change en coupe-gorge et où les vices de Paris, enveloppés du manteau de la nuit, se donnent pleine carrière. Il faudrait aussi parler du Marais, qui est dans la comédie humaine l'antithèse d'un quartier à la mode. C'est au contraire le quartier des pauvretés dignes, des vêtements râpés mais propres. Et le prototype des personnages, là, c'est le cousin Ponce, qui habite rue de Normandie, une de ces vieilles rues à chaussées fendues, où la ville de Paris n'a pas encore mis de borne-fontaine, et dont le ruisseau noir roule péniblement les eaux ménagères de toutes les maisons, qui s'infiltrent sous les pavés et y produisent cette boue particulière à la ville de Paris. Retour à la boue, donc. Je conclurai sur une question. Balzac aimait-il Paris ? Ce qui est sûr, c'est qu'il le connaissait très bien, qu'il l'arpentait sans cesse en tous sens. La robe de chambre et la cafetière, c'est vrai, mais c'est la nuit. Balzac n'a rien d'un reclus, c'est pas du tout rien de comparable avec le Proust des dernières années. Le jour, il court dans Paris, acheter les mélanges pour faire son café, trois cafés pour son mélange. Il va porter ses épreuves chez les imprimeurs. Il était la terreur des imprimeurs parce qu'il finissait ses bouquins sur épreuve. À l'époque du plomb. Hein. Il va se disputer avec ses éditeurs et aussi, il marche dans les rues à la recherche de noms pour ses personnages. Et on ne dira jamais assez combien ces noms sont bien choisis. Extraordinairement bien choisis. Hein. Gobseck, l'usurier. Nucingen, le banquier. Rastignac, Vautrin, César Birotteau. Quelle formidable justesse il y a dans tous ces noms. Alors cette ville qu'il connaissait par cœur, Balzac lui fait souvent un procès en moralité. Dans le célèbre prologue de La fille aux yeux d'or, on lit « Qui donc domine en ce pays sans mœurs, sans croyance, sans aucun sentiment ? L'or et le plaisir. Prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs, et suivez-y les serpenteaux de cette pensée qui l'agite, la soulève, la travaille. Et l'or et le plaisir reviennent comme un leitmotiv dans ce réquisitoire pendant plusieurs pages. » Mais au début de cette histoire des 13, dont La fille aux yeux d'or est le troisième volet, au début, donc, dans Ferragus, on entend quelque chose d'être très différent. Ô Paris, qui n'a pas admiré tes sombres paysages, tes échappées de lumière, tes cul-de-sac profonds et silencieux ? Qui n'a pas entendu tes murmures entre minuit et 2 heures du matin, ne connaît encore rien de ta vraie poésie, ni te des bizarres et larges contrastes ? Un chant d'amour nocturne, donc, auquel on pourrait joindre pour finir un chant d'amour solaire, le début de l'action dans La fille aux yeux d'or. Or, par une de ces belles matinées de printemps, où les feuilles ne sont pas vertes encore, quoique dépliées, où le soleil commence à faire flamber les toits et où le ciel est bleu, où la population parisienne sort de ses alvéoles et vient bourdonner sur les boulevards, coule comme un serpent à mille couleurs par la rue de la Paix vers les Tuileries, dans une de ces joyeuses journées, donc, et puis c'est la foudroyante rencontre entre Henri de Marsay et Paquita Valdès, la fille aux yeux d'or. Je vous remercie.